Madame Karima Bennoun, merci beaucoup d'être parmi nous ici à ONU Info. Vous êtes donc la rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels. Donc peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer tout d'abord en quoi consistent les droits culturels ?
Merci beaucoup. Les droits culturels sont énoncés dans plusieurs instruments internationaux et en particulier dans l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils protègent notamment la créativité humaine dans toute sa diversité, la liberté de choisir, d'exprimer et de développer son identité, qui comprend le droit de choisir de ne pas faire partie de collectifs particuliers, ainsi que le droit de quitter un collectif et de participer dans des conditions d'égalité à sa définition. Les droits des individus et des groupes de participer ou non à la vie culturelle de leur choix et le droit d'interagir et d'avoir des échanges indépendamment de l'appartenance à un groupe et à des frontières. Les droits de délecter des arts, des connaissances, de son propre patrimoine culturel et de celui d'autrui et d'y avoir accès, et aussi les droits de participer à la définition et à l'exécution de politiques et de décisions qui influent sur l'exercice des droits culturels d'une personne.
Mais votre dernier rapport met surtout l'accent sur l'importance des espaces publics pour l'exercice de ces droits culturels. Donc pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Les espaces publics ouverts et sûrs sont des conditions nécessaires pour l'exercice de nombreux droits humains. Les espaces publics sont les espaces dans lesquels la vie culturelle se forme, se développe et s'exprime, où les idées peuvent être confrontées et où la diversité culturelle d'une société devrait être visible et appréciée. Le droit de participer à la vie culturelle sans aucune discrimination et les libertés d'expression artistique et de création, de même que les droits culturels des personnes appartenant à certains groupes souvent marginalisés, tels que les femmes et les personnes en situation de handicap, ne peuvent être réalisés dans l'absence d'espaces publics adéquats ou sans des accès égaux pour tous à ces espaces. Les droits culturels impliquent aussi la possibilité de participer au processus de décision lié au développement et à la gestion des espaces publics, comme des espaces d'expression à la vie culturelle. De plus, l'objectif 11,7 de l'agenda de développement durable 2030 affirme l'importance d'assurer l'accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs. Mon rapport insiste sur les responsabilités des États et le rôle de tous les acteurs pour assurer que les espaces publics sont et demeurent des sphères de délibération, d'échange et de jouissance des droits humains universels.
Donc, quels sont justement les obstacles qu'il faut surmonter de nos jours pour que la population puisse avoir accès aux espaces et en bénéficier ?
Les obstacles à des espaces publics inclusifs incluent souvent, premièrement, des politiques publiques, des normes sociales ou des pratiques exclusivistes. Deuxièmement, le manque d'informations par rapport aux lieux publics existants et à leur utilisation. Troisièmement, les risques de menaces, violences ou harcèlement dans les espaces publics. Dans mon rapport, je considère aussi la manière dont l'architecture des espaces publics peuvent contribuer à rendre ces espaces accueillants ou non pour une diversité de personnes et de pratiques, de même que les divers éléments historiques, mémoriaux et symboliques qui peuvent avoir un impact sur qui se sent légitime pour investir les espaces publics et qui, au contraire, peut s'en sentir exclu.
Et comment peut-on s'assurer que ces espaces restent une sphère de délibération, d'échange, de cohésion sociale sans discrimination ?
C'est une question très importante, merci. D'une part, il faut que les espaces publics soient sûrs pour que chacun puisse les utiliser. Il est également important d'assurer qu'une diversité de points de vue, événements et manifestations puissent se dérouler dans les espaces publics afin de permettre un contact avec les idées et pratiques différentes et une rencontre entre les personnes qui contribuent à la cohésion sociale. Par ailleurs, les œuvres d'art présentées dans les espaces publics représentent des apports significatifs au paysage culturel qui contribuent à la rencontre et au débat sur la société. Il est donc important que les autorités publiques promeuvent la présence de l'art dans les espaces publics qui contribuent au droit d'avoir accès à une vaste palette de moyens d'expression artistique et consultent les populations locales lors des processus décisionnels concernant les œuvres à proposer.
Et on parle de plus en plus d'espaces virtuels. Donc, est-ce que ces espaces virtuels remplacent les espaces publics ou peuvent-ils cohabiter? Et est-ce une bonne chose en fin de compte?
L'augmentation des espaces publics virtuels n'amoindrit aucunement l'importance des espaces réels où les êtres humains peuvent se rencontrer et interagir en personne. Dans mon rapport, je considère que les espaces virtuels sont une catégorie d'espaces publics à côté des sites culturels, des lieux ouverts, naturels, urbains ou ruraux, des infrastructures publiques et des rues. Ils ajoutent une nouvelle dimension puisqu'ils complètent les lieux concrets sans pour autant les remplacer. En ce sens, ils présentent beaucoup de défis communs aux autres espaces publics. Les garanties des droits humains sont donc toujours valables en ligne et sont sujettes aux mêmes restrictions autorisées par le droit international des droits humains pour des droits bien précis et pour respecter leurs obligations relatives aux droits humains. Les pouvoirs publics peuvent être amenés à prendre des mesures assurant l'accès et la participation de toutes et de tous au cyberspace. Si les espaces virtuels ouvrent de nouvelles perspectives intéressantes pour exercer ces droits culturels et nouer ces relations à l'échelon mondial et local, ils soulèvent également des questions pressantes sur les droits fondamentaux et menacent d'ébranler les lieux concrets en encourageant les personnes à accorder la priorité aux échanges virtuels par rapport aux interactions en présence de leurs semblables.
Et nous allons parler un peu des femmes. Pourquoi la pleine participation des femmes doit être encouragée dans les espaces publics et comment? Et est-ce que vous avez des exemples?
Dans la pratique, les femmes ont souvent des obstacles considérables à accéder aux espaces publics en raison des risques pour leur sécurité et des normes sociales et culturelles. Elles sont parfois complètement exclues d'espaces de vie culturelle tels que les stades, les salles de concert mixtes, les cafés, les lieux de culte ou les sites patrimoniaux, en effraction du droit international des droits humains. Assurer la pleine participation des femmes aux espaces publics est une garantie importante de diversité culturelle et de réalisation de leurs droits culturels et de leurs droits humains. Les impliquer dans l'élaboration des politiques aux arts ou encore à la programmation d'événements peut leur permettre de se réapproprier mentalement et physiquement ces lieux et de revendiquer leurs droits à les fréquenter et à les utiliser pour elles-mêmes et pour d'autres. De plus, impliquer les femmes et une perspective sensible au genre dans l'aménagement, la conception et la gestion même des espaces publics est une garantie que les espaces seront plus inclusifs puisque certains préjugés, conscients ou inconscients, seront déconstruits.
Et donc, nous allons parler d'un autre rapport thématique que vous avez présenté au Conseil des droits de l'homme, où vous examinez les graves conséquences du fondamentalisme et de l'extrémisme sur l'exercice des droits culturels, justement. Donc, en quoi sont-ils une menace et comment les droits culturels jouent un rôle central dans la lutte contre le fondamentalisme et l'extrémisme?
Ce que les fondamentalismes et extrémismes de toutes sortes ont en commun, c'est leur volonté d'anéantir l'expression de la diversité culturelle et de toute forme de contestation, d'imposer une vision monolithique du monde, une seule manière d'interagir et une division nette entre des groupes culturels qui seraient figés dans le temps. Pour faire le lien avec le rapport sur les espaces publics, c'est naturellement dans les espaces publics que la pression de ces idéologies se fait sentir en premier. Par le fait que les personnes s'auto-censurent ou limitent leurs expressions culturelles, ou bien par la formulation de restrictions et régulations visant à réduire l'espace pour l'expression culturelle. Et je souligne, et là je reviens à l'importance des droits culturels, l'art, l'éducation et les ressources culturelles sont parmi les meilleures armes que nous avons pour combattre les fondamentalismes et les extrémismes, qui sont après tout des questions des droits humains très importantes.
Madame Karima Bennoun, merci beaucoup.
Merci à vous.